Ben, j'ai toujours le live, va bientôt démarrer. Ah, c'est bon, on se voit. Ok. Ben, j'ai toujours le live. Oh.
C'est bon, c'est bon.
Oui, j'ai coupé le son. Ok. Voilà. Ouf. Bonjour tout le monde. Donc, on est content de vous retrouver pour ce dimanche. Premier dimanche, enfin, deuxième dimanche de culte confiné. Et donc beaucoup de stress pour ce premier live avec la technique qui évidemment ne fonctionne pas au moment où on a besoin d'elle. Mais ça va, on a Timothée qui assure, il a fallu changer d'ordinateur au dernier moment, enfin de retour refaire. Mais ça va, il assure et maintenant ben, on est content de se retrouver, on va oublier le stress, ça fait monter l'adrénaline. Et voilà, donc pour cette première prédication pour moi en confinement, ce retour au confinement, j'ai choisi de faire un petit peu autrement, de faire la prédication sous la forme d'une petite table ronde avec deux membres de ma famille, volontaires, enfin volontaires désignés pour être honnête, mais elles ont quand même accepté bien gentiment, histoire que je me retrouve pas seul devant une caméra et vous seul devant votre écran. Ça va donner l'impression qu'on est quand même ensemble et ça, je pense que ce sera quelque chose de plus convivial qui peut vous faire davantage de bien. Alors sinon, voilà, ben nous revoilà confinés. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, forcément facile à accepter parce que l'isolement, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est ce qui a suscité en moi ce désir de partager ce matin sur le fait que, ben, en vrai, on n'est pas seul. On peut avoir l'impression d'être seul parce que physiquement, ben, on n'a personne. Et je pense à certains d'entre nous dans l'église, certains d'entre vous qui est tout seul. Je pense à Marie-Jeanne, par exemple, qui doit faire face à la solitude. Mais ben, je voudrais consoler, rassurer, affirmer que nous ne sommes pas seuls du tout. Il y a beaucoup de monde qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Et justement, le sujet qu'on va partager ensemble concerne les anges. Enfin, tout ce qu'on va parcourir la Bible et on va voir ensemble quel est leur rôle, tout ce qui se passe. Et voilà, bon, Jésus nous a promis déjà, rien que lui, nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est déjà un verset qui est plein d'espoir pour nous. Mais la Bible nous parle aussi d'êtres célestes qui jouent un rôle important, mais qui jouent un rôle pourtant dans le secret. On ne les voit pas, on ne les perçoit pas forcément. Certains dans la Bible en ont vu, et ce sont les anges. Alors dans la Bible, il n'y a pas vraiment un enseignement qui concerne les anges. On peut trouver des enseignements sur l'amour, sur l'Église, sur le Saint-Esprit, le pardon, la repentance, le salut, etc. Mais il n'y a pas vraiment un enseignement sur les anges. Alors il y a sûrement plusieurs raisons à cela. On ne va pas forcément se pencher sur ces raisons. Mais moi, je pense que, ben, en fait, c'est évident. Il y en a. On est entouré. Il y a des anges qui sont avec nous, qui vont remplir des rôles importants. Mais ben, la Bible en parle de façon un peu partout. Si on la parcourt, on va rencontrer beaucoup de versets qui parlent des anges. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. On va non pas faire un enseignement sur les anges, mais on va répertorier un peu tranquillement tout ce que la Bible nous dit des anges. Alors, on va commencer par lire dans Hébreux, donc Hébreux chapitre 1, verset 14. Et là, il est écrit des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça, c'est un verset qui nous marque déjà, qui nous apprend plein de choses. Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Et ils
Avant,
sont envoyés,
je
oui.
peux te couper un petit
Ah
peu.
oui, bien sûr.
Avant d'aller plus loin, on pourrait savoir ce que ça veut dire, ange.
Oui, alors bien sûr, ange, ça veut dire envoyé. Donc ce sont en fait des êtres dont le but est d'être envoyés. Donc ils vont être missionnés pour transmettre un message, mais pas seulement un message. L'éventail de leur mission, il est quand même très large. Et je vous propose de les parcourir ensemble maintenant. Donc, ces anges, ils sont destinés à exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut, donc nous, et certainement aussi ceux qui ne sont pas encore convertis, puisque c'est écrit « ceux qui doivent hériter du salut ». Donc, nous, on hérite du salut et on le possède déjà, mais il y en a sûrement d'autres qui doivent rejoindre la bergerie, et des anges vont exercer un ministère en leur faveur pour les amener à rencontrer Jésus-Christ. Donc, ce verset nous apprend trois choses. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Dieu les envoie pour effectuer des missions en notre faveur. Et maintenant, je vous propose de se pencher sur différentes missions. Alors, je ne prétends pas en faire une liste exhaustive, mais en tout cas, un inventaire par rapport à des histoires, des versets dans la Bible, tout ce qui nous est rapporté. Et on va regarder donc plusieurs situations dans lesquelles des anges sont intervenus.
Il a protégé des enfants.
Oui, et très bien Rachel. Donc ben, Jésus nous parle dans Matthieu 18, 10. Jésus lui-même affirme ceci. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est une mise en garde. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, parce que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui surprend. Ça nous révèle que les enfants, ils ont non pas un ange, mais des anges. Et ces anges, ils sont dans les cieux, et pourtant ils sont rattachés à ces enfants. Et ces anges voient continuellement la face de Dieu dans les cieux. C'est extrêmement grandiose. Ça montre l'importance des enfants aux yeux de Dieu. Et moi, ça me fait penser à des situations, on s'est tous déjà dit ça, hein, ça arrive qu'il y a des enfants qui tombent et on se dit, oh là là, comment ils vont se relever, ils vont être démolis. Et finalement, ils s'en sortent très bien. Si des adultes comme nous, il nous arrivait les mêmes choses, on ne s'en sortirait pas du tout aussi bien. Et je me dis que ben, c'est certainement aussi parce qu'ils ont des anges qui les protègent, qui les gardent. Et c'est ainsi qu'ils s'en sortent beaucoup mieux.
Alors moi d'ailleurs, j'ai un petit témoignage.
Oui.
Quand j'avais 2 ans, mes parents ils ont eu un grave accident de voiture. Et moi, j'étais à l'arrière de la voiture avec un bol rempli de groseille. Et ce bol s'est cassé avec le choc et j'ai eu qu'une petite coupure avec une petite goutte de sang.
Ben voilà, c'est un très bon exemple d'une protection qui a une protection des anges, une protection divine. Et c'est super et je pense que chacun, vous allez sûrement vous souvenir là en écoutant ça dans votre enfance de moments où ben, miraculeusement vous avez été protégé. Et il y a plein d'accidents où les enfants s'en sortent indemnes. Alors c'est vrai, vous me direz, ils sont plus petits, du coup ils peuvent s'en sortir plus facilement. Quand ils tombent, ben, ils tombent de moins haut que nous, mais ils sont gardés par notre Père Céleste. D'ailleurs, dans Matthieu 18, 6, pour montrer l'importance des enfants, Jésus lui-même a dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Alors c'est du vieux français avec du passé simple, mais ça traduit bien l'importance des enfants aux yeux de Dieu et c'est la raison pour laquelle leurs anges, les anges de ces enfants, ils sont au ciel et ils voient continuellement la face de Dieu. Donc il y a, on dirait un peu comme une connexion entre Dieu, les anges et les enfants, et une garde, une protection toute particulière envers les enfants. Donc là, on vient de voir une mission des anges par rapport aux enfants. Mais ce n'est pas la seule.
Ah non, qu'en est-il de Daniel et ses amis ?
Voilà, exactement. Donc, on a un autre exemple dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 24. On voit un ange arriver à un moment crucial, et je sais que j'en ai déjà parlé, d'ailleurs je m'étais trompé, j'avais parlé que c'était Daniel dans la fosse aux lions, et Christophe m'avait fait la remarque, non, non, c'est pas Daniel, c'était ses trois amis. Et je m'en suis souvenu, Christophe, merci. Alors, le roi, on lit, Daniel 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Plus loin, au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Là, c'est quand même merveilleux de voir que de la bouche d'un inconverti, ce n'était pas un enfant de Dieu, il a reconnu que le visage du quatrième homme, c'était le visage ressembler à celle des fils des dieux. Il a reconnu lui-même qu'il s'agissait d'un ange. Et ça, c'est quand même énorme de voir que quelqu'un du monde a reconnu que c'était un ange. Donc ça, c'était les trois amis de Daniel. Mais il y a aussi,
Daniel dans la fosse aux lions.
oui, tout à fait, une histoire que tout le monde connaît, les enfants la connaissent, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Dans Daniel 6, 22, donc c'est un petit peu plus loin dans le livre de Daniel. On voit Daniel qui a répondu au roi Darius qui vient le voir au petit matin parce que, évidemment, ce roi, il s'est trouvé coincé. Il avait été manipulé enfin, j'ai envie de dire, de la cour. Donc, et au petit matin, il se dépêche d'aller voir dans la fosse aux lions et quelque part, il espérait que Daniel s'en soit sorti. Et là, Daniel lui répond, mon Dieu a envoyé, au verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. C'est bon? Ok.
Alors, si on continue avec les anges, il y a aussi les apôtres.
Oui, là on a beaucoup parlé de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il est aussi beaucoup question des anges. Et donc au début de l'Église avec les apôtres, dans Actes 5, 17, je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut le lire d'ailleurs. Non?
Voilà, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.
Donc là, on a un extrait et c'est quand même quelque chose de phénoménal. Voilà, les apôtres se trouvent arrêtés, mis en prison. Et puis, voilà, pendant la nuit, un ange arrive. Humainement, c'est incroyable. Cet ange ouvre les portes de la prison et fait sortir les disciples. C'est quelque chose de merveilleux. On imagine. On se dit d'ailleurs pourquoi c'est arrivé aujourd'hui quand on pense à nos frères et sœurs persécutés qui sont en prison. C'est quelque chose qui pourrait se produire, qui ne se produit pas, mais c'est arrivé en tout cas pour les apôtres. Voilà, en pleine nuit, un ange est venu et les a sortis de prison et ils ont pu continuer leur mission. Mais ce n'est pas tout.
Pierre aussi
Oui,
a
tout à
vécu
fait.
chose semblable.
Il lui est arrivé aussi quelque chose de semblable à Pierre dans Actes 12, 6. Je ne sais pas si tu veux le lire. Oui.
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ».
Si, merci Rachel. Donc là on voit cet ange encore une fois qui arrive, et pourtant si on lit toute l'histoire, on se rend compte que Pierre était sacrément bien gardé. Hérode avait pris énormément de précautions pour être sûr de ne pas perdre ce prisonnier précieux. Et malgré tout cela, un ange est arrivé, il a réveillé Pierre, et tout en réveillant Pierre, personne d'autre n'a bougé. Les gardes qui dormaient autour et toute la suite, hein, jusqu'à son cheminement, jusqu'à la sortie de la prison, il n'a été détecté par personne, personne n'a bougé. Et Pierre est sorti, et c'est complètement miraculeux. Il fallait qu'un ange vienne pour libérer ainsi Pierre. Et donc, on voit que ces anges, ils sont des êtres surnaturels, des êtres, ce sont des esprits qui viennent et que rien n'arrête. Ils sont revêtus de la puissance que Dieu leur donne pour la mission qu'ils doivent accomplir, et ils exécutent leur mission et rien de ce qui est humain ne peut les arrêter. Mais on se dit, les enfants, les apôtres, Pierre, et nous alors, dans tout ça?
Oui, justement, nous. Est-ce que nous aussi, on a des anges?
Mais bien sûr qu'on a des anges. Parce que dans le psaume 34, verset 7, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » C'est merveilleux de savoir que l'ange de l'Éternel, il est avec nous, il campe autour de nous parce que nous craignons l'Éternel. Donc un ange, l'ange de l'Éternel, est avec nous et il veille sur nous.
C'est d'ailleurs le titre d'un chant qu'on chante souvent à l'église au matin. Je bénirai l'Éternel.
Oui, tout à fait. Le psaume 34, tout à fait. Donc on vient de parcourir plusieurs histoires. Alors je ne prétends pas les avoir toutes parcourues parce qu'on n'en aurait pas assez de notre matinée. Donc là, on vient de voir qu'il y a des missions de protection, de délivrance pour les anges, mais il y a aussi, à d'autres moments, des missions d'aide. Hein? Et quand on pense aux missions d'aide, on pense à une histoire dans le Nouveau Testament.
Jésus.
Bah oui, c'est même Jésus lui-même. Dans Luc 22, 39, on a le moment où Jésus se trouvait... On va lire le verset 1, Luc 22, chapitre 39. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On voit que Jésus, pourtant, qui était le Fils de Dieu, qui était tout puissant, dans ce moment-là, il a eu besoin d'aide. Et qui est venu lui donner cette aide? Un ange. Un ange qui est venu... Un ange qui est venu pour aider Jésus. Et ça, c'est incroyable de voir que Jésus, même lui, il a eu besoin de cette aide. Et si on pense un peu à nous, on a déjà traversé des moments très difficiles dans nos vies. Je pense que je suis pas le seul. On a tous traversé déjà des moments difficiles et sans le savoir, on a peut-être eu l'aide d'anges qui ont été envoyés par Dieu lui-même. Et je sais pas si dans nos vies vous avez des souvenirs de moments d'anges où vous pensez que des anges auraient pu vous venir en aide. Non?
Ben moi, quand j'étais à Paris, au moment où mon téléphone il a décidé de plus fonctionner, et que c'est là que j'ai pris la décision de retourner ici,
De
chez mes
retourner à la
parents.
maison, oui. Ok, ben c'est peut-être des anges qui ont fait que ben la technique se mette à plus fonctionner. C'est possible. Et Dieu est tout-puissant. Et quand il envoie ses anges, ben les anges accomplissent leur mission envers ceux qui doivent hériter du salut. On va continuer dans. On vient de voir qu'il y a un exemple d'une mission d'aide, mais il y a aussi des missions de service. Ça s'apparente un peu aussi à l'aide. Et par exemple, envers Jésus, dans Matthieu 4, 10, si l'une de vous veut lire le verset, oui.
Matthieu 4, 10. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui-même. Alors le diable laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Voilà, merci. Donc il y avait des anges qui sont venus auprès de Jésus et qui l'ont servi. Alors on ne sait pas trop comment ils l'ont servi. Est-ce qu'il lui importait, parce qu'il venait, c'était dans la période où il venait de jeûner, peut-être qu'ils lui ont servi à manger, que cette période de jeûne était terminée. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a des anges qui sont venus pour lui offrir un service, pour lui donner quelque chose dont il avait besoin. Et voilà pour ce petit chapitre de l'histoire. Mais Jésus n'a pas été le seul à avoir été servi par des anges.
Il y a aussi Élie quand il était découragé.
Oui, tout à fait. Élie, on connaît tous l'histoire. Élie venait de connaître un haut très haut, où ben, vous connaissez tous l'histoire, où le feu était descendu sur l'autel malgré le fait qu'il avait été complètement détrempé, inondé d'eau. Et aussitôt après cette énorme expérience, Élie a rencontré un moment de grand découragement parce qu'il a appris que Jézabel en voulait à sa vie et il s'est trouvé découragé. Et dans 1 Roi 19,5, il nous est dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, mais comme il n'avait pas du tout envie de se remettre en route, il s'est recouché. Et là, verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et là, Élie, il a mangé, il a bu, et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc là, on voit encore une fois l'exemple d'un ange qui vient pour aider un enfant de Dieu. Et sans cette intervention, Élie était bien déterminé à rester couché. D'ailleurs, on n'a pas lu toute l'histoire, mais je vous encourage à la lire. Avant ça, Élie, il a demandé la mort. Il était dans un moment de grande dépression, il n'en pouvait plus, et Dieu a envoyé un ange, et d'ailleurs c'est écrit l'ange de l'Éternel, et dans bien d'autres endroits, on comprend qu'en fait cet ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, c'est Jésus lui-même qui vient et qui vient pour relever l'un de ses enfants. Et c'est merveilleux de savoir cette connexion entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Et quand c'est nécessaire, ben Dieu fait des grandes choses, des miracles en envoyant un ange pour nous remettre en route. Et je suis persuadé que on est tous passés par des moments où, ben oui, on a été reboosté parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Les anges, donc, on vient de voir qu'ils effectuent des missions de protection ou de délivrance, des missions d'aide ou de service, mais il y a encore un autre type de mission qu'on trouve dans la Bible qui nous est rapportée.
Il y a aussi les informations.
Très bien. Donc, des missions d'information ou de transmission de messages. Alors, les plus récentes dans le Nouveau Testament parlent par exemple
Ben, de Zacharie.
de Zacharie. Très bien, donc Zacharie, juste avant la naissance de Jean-Baptiste. On trouve cette petite histoire dans le chapitre 1 du livre de Luc, au verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc là, on voit un ange qui est venu auprès de Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle, pour lui annoncer que sa femme deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils et qu'il s'appellerait Jean. Et peu de temps après,
On a Marie qui a su par l'ange Gabriel enfanter Jésus.
D'accord, tu veux lire le verset?
Au sixième mois, dans Luc 1, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une vallée de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi qui as une grâce. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu vas trouver grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Merci. Donc là, c'est une histoire qui est très connue, hein. Un ange vient voir Marie. D'ailleurs, cet ange, on y reviendra à la fin de notre petite étude, cet ange, il a un nom, il s'appelle Gabriel. Et il vient lui aussi transmettre un message à Marie pour lui annoncer qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est notre Sauveur. On va continuer notre étude. Donc, après avoir parcouru toute cette succession de missions qu'ont les anges, le rôle qu'ils ont à jouer, on peut se demander légitimement, mais pourquoi il nous arrive des choses? Avec toute cette armée qu'il y a autour de nous, pourquoi quelquefois il nous arrive des choses qui sont difficiles, des choses fâcheuses, des choses où on se dit, alors pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu? Pourquoi il n'y a pas des anges qui nous ont gardés? On est d'accord?
Oui, tout à
Hein?
fait.
On peut se le demander légitimement. Eh bien, j'ai fouillé et j'ai trouvé un élément de réponse qu'on va trouver dans Matthieu 26, 53, qui concerne Jésus lui-même. Au moment où Jésus se trouve dans le jardin et qu'il est trahi, et il dit, Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, pardon. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus savait qu'il était venu sur la terre pour souffrir et il aurait eu le moyen, comme il l'affirme, de demander de l'aide à son Père et il aurait reçu à l'instant 12 légions d'anges. Mais s'il l'avait fait, il ne serait pas mort à la croix pour nous sauver. Mais nous, il y a aussi des choses dans notre vie qui sont sur notre chemin et le Seigneur a décidé qu'on les traverserait parce qu'ils sont nécessaires à notre croissance. Et si on y échappe, on va rater des étapes de notre vie. Et on sait tous que malheureusement, c'est dans les moments difficiles qu'on grandit le plus. C'est dans les moments les plus difficiles que nos racines s'enfoncent dans la terre pour nous ancrer toujours plus en Jésus-Christ. Et si on était toujours délivré des moments difficiles, on ne connaîtrait pas ces moments de croissance. Donc les anges nous protègent, je pense, de choses qui sont beaucoup plus difficiles qu'on ne supporterait pas. Mais ce qu'on est capable de supporter, Jésus va nous le faire traverser parce que c'est nécessaire. On en a besoin pour grandir. Voilà, c'est mon élément de réponse. Tu veux ajouter quelque chose?
Non, c'est pour la suite.
Oui, d'accord. Alors, tu veux parler de la suite?
Bah oui. Est-ce qu'on a le droit de prier les anges?
Alors, c'est vrai qu'avec tout ce que je dis, peut-être que certains auraient envie de
Parce
penser.
que ce sont des êtres célestes.
Ce sont des êtres célestes qui ont un grand pouvoir, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut les adorer? Est-ce qu'on peut les adorer? On va regarder. Dans Apocalypse 19 au verset 9, ben d'ailleurs, si tu veux lire le verset, ce serait bien.
Écrit. L'ange me dit, écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Voilà, donc on a une réponse claire et nette. Hein. Un ange lui-même qui est venu, donc là on n'a pas pris le contexte, mais vous êtes en train de le deviner, dans Apocalypse, ben c'est l'apôtre Jean qui a reçu en révélation toutes les prophéties qui sont décrites dans l'Apocalypse. Et c'est un ange qui est venu lui montrer ses visions. Et Jean, l'apôtre Jean, à ce moment-là, il veut tomber au pied de cet ange, tellement il est admiratif devant ce que l'ange vient de lui montrer. Et là, l'ange lui dit clairement, garde-toi de le faire. Et dans la suite du verset, je suis ton compagnon de service. Je ne suis pas, ça veut dire que l'ange n'est pas un supérieur, il est un compagnon de service et en même temps et un compagnon aussi de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc les anges sont des êtres spirituels, ils peuvent nous paraître plus grands que nous, mais ils se décrivent eux-mêmes, en tout cas cet ange-là s'est décrit lui-même comme un compagnon de service. Et on adore seulement Dieu, pas un compagnon de service. Et d'ailleurs, il le dit, adore Dieu dans la suite. Donc, le seul être merveilleux qui puisse être adoré, c'est Dieu. Les anges, il nous est défendu de les adorer. Et je pense même qu'il ne nous est pas du tout demandé d'essayer de leur parler, d'entrer en communication avec eux, parce qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Comme je l'ai dit au début, les anges sont au service de Dieu. Et ils sont envoyés par Dieu pour effectuer des missions, pour remplir des missions en notre faveur. Ce n'est pas à nous de demander la mission. Celui qui commande, c'est Dieu et c'est lui qui envoie. Il y a cette hiérarchie et il ne faut absolument pas briser cette hiérarchie. On n'a pas à entrer en communication avec les anges. Bon, s'ils viennent nous parler et qu'on se met à les voir, évidemment, on va parler avec eux, mais s'ils ne sont pas là, si on ne les voit pas, on n'a pas à leur parler et encore moins à les adorer. Ils sont envoyés par Dieu, point barre, et ils sont là pour effectuer une mission et c'est tout. Donc nous pouvons avoir conscience de la présence des anges, mais en aucun cas Dieu nous autorise à les vénérer et à les adorer. Ce serait une grave erreur. Et voilà pour cette partie qui était importante, hein, parce que le fait de parler des anges, ça peut donner envie d'essayer d'entrer en communication et il y a des personnes qui pourraient être superstitieuses et vouloir un peu s'adresser à ces esprits, mais ça ne nous est pas permis. On ne doit adorer que Dieu seul. Mais nous pouvons avoir conscience, puisque la Bible nous laisse beaucoup de ces éléments, avoir conscience que Dieu est bon et il veille sur nous, on est la prunelle de ses yeux. Et il nous envoie beaucoup d'éléments, beaucoup d'êtres pour nous protéger et nous garder dans tout notre cheminement terrestre. Alors, je voudrais aussi continuer avec des choses un peu curieuses dont nous parle la Bible, que j'ai appelées dans la suite de cette petite étude, des curiosités à propos des anges. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui voudrait lire le Hébreux 13.1 ? Hein, Rachel ?
Hébreux 13.1. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Eh oui, c'est curieux, c'est affirmé dans la Bible hein, par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Ce n'est pas l'épître de Paul aux Hébreux, on ne sait pas trop qui l'a écrite. Mais en tout cas, il affirme que ben, certains ont logé des anges sans le savoir. Alors, forcément, c'était des gens qui étaient hospitaliers, qui ont hébergé des personnes qui étaient de passage. Et ils les ont hébergés chez eux, et sans le savoir, ben, ils ont hébergé des anges. Et ça, c'est super. Dans 1 Pierre 1, 10, il y a une autre curiosité qui suscite beaucoup mon émerveillement. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est quelque chose de merveilleux. On va creuser un peu dans ce verset qu'on vient de lire. Il nous parle des prophètes qui ont prophétisé qui ont prophétisé le fait que ben viendrait Jésus, qu'il y aurait un jour dans l'histoire des personnes qui connaîtraient la grâce. Et ce salut par la grâce, ça a émerveillé les prophètes qui ont écrit, et il y en a beaucoup hein, qui ont écrit par rapport à tout ce qui allait arriver. Et il est tout à la fin de ce verset, c'est le verset 12, tout à la fin du verset 12, il nous est dit que cet évangile, eh bien, il attire aussi les gens, les anges, il n'attirait pas seulement les prophètes, il attire les anges parce que les anges, ils désirent plonger leur regard à l'intérieur de ce message de l'évangile. Ça les attire aussi, ça les émerveille sûrement, ben de voir que Jésus est venu sur la terre pour sauver des êtres, les êtres que nous sommes, les humains que nous sommes, les anges, ils sont émerveillés et ils sont attirés par ce message par ce message de grâce, ce message de l'évangile. Ça montre que le ciel est émerveillé par cette idée de salut, ce projet de salut que Dieu a mis en œuvre pour nous sauver. Et c'est merveilleux de prendre conscience de l'importance de ce message. Donc les prophètes étaient passionnés par l'évangile dont ils annonçaient la venue, mais les anges eux-mêmes, ils désirent plonger leur regard dans ce merveilleux message. Mais il y a aussi encore quelque chose de surprenant qui traîne aussi dans 1 Corinthiens 6,3.
Est-ce que nous allons les juger, les anges?
Ben oui, justement, il est écrit que nous jugerons les anges. Dans Corinthiens 6,3, je vais vous le lire, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Alors moi, je pense, c'est pas dit, mais je pense a priori qu'il s'agit des anges déchus, donc du diable et de son armée que nous jugerons, puisque le diable était lui-même un ange, il était le plus bel ange, j'ai déjà fait un partage là-dessus, mais un jour, l'iniquité a été trouvée en lui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu curieux. Nous jugerons les anges. Et on va terminer par certains anges qui ont un rôle particulier. Alors tout à l'heure, on l'a vu, il s'agit de l'ange Gabriel, qui est venu pour annoncer la naissance de Jean et de Jésus. Et d'ailleurs, dans Luc 1, 18, l'ange dit de lui-même, quand il parle à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ah, c'est quand même quelque chose de merveilleux d'entendre un être céleste qui dit je me tiens devant Dieu. L'ange qui est venu annoncer à Marie la naissance, la future naissance de Jésus et auparavant de Jean-Baptiste, eh bien c'est l'ange Gabriel qui dit de lui-même je me tiens devant Dieu. Waouh, c'est un ange qui est continuellement devant Dieu. Et qui voit la face de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. Et cet ange, ben, il est déjà venu sur la terre pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste et de Jésus. Mais ce n'est pas le seul ange qui a un nom dans la Bible, il y a aussi un autre ange.
S'appelle Michel.
Tout à fait, c'est l'ange Michel. Alors on dit plus souvent le prénom avant le nom, on dit Michel-ange au lieu de dire l'ange Michel. D'ailleurs, quelquefois, il est appelé l'ange Michael. Alors c'est pas Michael Terrier, c'est l'ange Michael, Michel-ange. Et on le trouve dans Apocalypse 12, 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le dragon, le diable, sera ensuite précipité sur la terre, et donc on voit ce combat céleste. Et d'ailleurs, au temps de Daniel, hein, je l'ai pas mis dans les versets, mais vous pouvez aller le lire, il est aussi question d'une résistance de 21 jours, et Michel-Ange ensuite a pu arriver jusqu'à Daniel, mais il y a eu du combat dans les cieux. Et ça, on a du mal à se le représenter, à l'imaginer, mais il y a des luttes, il y a des combats là-haut qu'on n'imagine pas, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il nous est écrit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Je l'ai oublié, je croyais que je ne l'avais pas mis. Donc dans Daniel 10, 13, ben, il y a quelqu'un qui veut le lire.
Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
Voilà, aussi, j'avais oublié que je l'avais mis. Ben oui, on l'a là. Hein. Donc il y a une résistance. Et les anges, pourtant, ils sont tout puissants, mais il y a des combats là-haut et des combats qui peuvent avoir une durée. C'est la victoire n'est pas forcément instantanée. Et là, ben, ça a duré 21 jours. Et ces 21 jours pendant lesquels Daniel n'avait pas eu la réponse, elle est arrivée après. Et ça, ça peut expliquer pourquoi, ben, quelquefois, on n'a pas la réponse tout de suite. Parce que là-haut, il y a des combats et la réponse va nous arriver. On a besoin de persévérance. Voilà, donc on arrive à la conclusion de notre petit partage de ce matin. Nous ne sommes pas seuls du tout. On vient de voir qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible et je suis loin de les avoir tous parcourus. Il y en a énormément, beaucoup d'endroits dans la Bible où il est question d'anges, de milliers d'anges, les anges qui adorent Dieu. J'ai pas parlé par exemple des bergers, quand les bergers sont allés voir Jésus, il y avait des milliers d'anges sur les collines et les anges chantaient les louanges de Dieu. Il est aussi dit que nous, plus tard, quand on sera au ciel, nous serons comme des anges. Nous serons semblables à eux, nous serons des êtres célestes. Nous revêtirons ce corps céleste comme nous avons revêtu ce corps terrestre. Donc, ayons conscience que Jésus est toujours avec nous et qui déploie énormément de moyens, j'aurais envie de dire des moyens humains, mais ce ne sont pas des moyens humains, il déploie énormément de moyens célestes, d'êtres célestes, pour nous entourer, pour nous aider, pour nous épauler, pour nous relever quand nous sommes tombés, quand dans les moments de dépression, comme Élie, eh bien il y a certainement des anges qui sont là pour nous aider à nous relever. Dieu tient vraiment à nous, nous sommes la prunelle de ses yeux, et il est vraiment attaché à l'aide dont on a besoin et il va nous la donner. Ici sur la terre, on entend sans arrêt à notre époque parler de réduction d'effectifs. La charge qui pèse sur ceux qui travaillent est de plus en plus forte, de plus en plus grande. On en parlait hier soir au groupe de jeunes. Mais là-haut, il n'y a pas du tout de réduction d'effectifs. Jésus, Dieu, ne lésine pas sur les moyens. Il met tous les moyens en œuvre. Tout ce dont nous avons besoin, il va nous le donner. Et c'est merveilleux de savoir que grâce à tous ces moyens, grâce à toute cette assistance qui est donnée aux saints, eh bien, nous allons réussir à traverser les moments difficiles qui sont devant nous, comme nous avons déjà réussi à traverser ceux qui appartiennent au passé. Donc, les temps difficiles qui nous attendent, qui sont là, dans lesquels nous sommes en train d'entrer, je pense, eh bien, nous allons les traverser parce que nous avons une armée d'anges avec nous. Nous avons Jésus et il y a toute une armée qui est là pour nous épauler. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Donc je voudrais vraiment vous dire un grand merci pour votre attention, dire un grand merci à Isabelle, à Rachel, qui ont bien voulu m'accompagner dans ce moment de live pour ne pas être tout seul. Merci pour vos échanges. Et si tu voulais dire merci aussi, dire au revoir.
Bon dimanche.
Voilà.
Bon dimanche.
Voilà, ben on vous embrasse en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Oui, si. Oui, je voulais dire aussi, il ne faut pas l'oublier, un grand merci à Timothée, notre technicien, qui a fait des prouesses pour nous permettre de réaliser ce live. Et j'ai fait quelques photos de l'envers du décor et auxquelles vous aurez droit bientôt. Voilà, on vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.